Voilà.
Oui, je voudrais vous parler quelque peu du carême et puis le but dans le fond. Puisque si nous prenons le carême, tout est basé dans le fond sur l'exode du peuple hébreu qui part d'une situation d'esclave pour conduire à un peuple libre. Et nous savons, nous connaissons tous l'histoire de l'exode, nous savons que c'est pas facile. Et que bien souvent même, on avait des oignons et des poireaux au moins quand on était là-bas, et donc on préfère les oignons et les poireaux avec l'esclavage, qui leur sont attenants, plutôt que cette liberté vers laquelle Dieu veut les conduire, Yahvé veut les conduire, mais aussi qui n'est pas facile, parce qu'elle passe par un grand nombre de purifications. Et cette purification a duré 40 ans. Et nous savons d'après l'Ancien Testament aussi qu'à de multiples reprises, ce peuple a préféré se conformer à ce qui était à l'extérieur plutôt que de faire le choix de Dieu, parce que c'était beaucoup plus facile. Et nous savons aussi par cette expérience de l'Ancien Testament combien aussi ils furent malmenés, puisqu'entre autres ils sont partis de nouveau en esclavage après leur défaite, et qui ne sont revenus donc de Mésopotamie que vers moins 500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a établi, entre autres, tous les textes canoniques à partir des traditions orales antérieures et puis des choses qu'avaient écrites les prêtres et les scribes. Et ça a permis d'avoir le canon des Écritures que nous connaissons de l'Ancien Testament. Donc tout cela pour dire que le choix de Dieu, c'est pas quelque chose qui se fait les deux doigts dans le nez, et que, eh bien, se passer d'une situation d'esclave à une situation d'homme libre, eh bien, cela demande du temps et n'est pas exempt non plus de nombreuses souffrances. Alors, nous le savons fort bien que pour atteindre le but de quoi que ce soit dans la vie, eh bien, nous passons par de nombreuses étapes souffrante, hein, bon, ne serait-ce que l'expérience de la montagne. On ne fait pas un grand sommet comme ça. On souffre, après, une fois qu'on l'a fait, on est très content, mais on est fatigué. Il y a eu des moments, des passages difficiles, des endroits où on s'est dit, ben, c'est pas la peine, je fais demi-tour. Enfin, voilà, donc la vie, cet exode, en fait, c'est le schéma, et ça a été repris par les pères anciens des premiers siècles, de toute la vie dans l'esprit. Et cet esprit, nous l'avons tous reçu, puisque nous avons reçu le baptême. Quand j'entends dire souvent aux personnes, « Oh ben moi je ne suis pas une spirituelle. » Je suis navré, tu as reçu le baptême, donc obligatoirement tu as l'esprit. Et comme dit Paul dans la lettre aux Galates, ben, « Si c'est votre vie, l'esprit, ben, vivez-en. » C'est Galates 5, 25. Que vivre de l'esprit qui nous est donné. Et donc ça va chez nous, correspondre, on pourrait dire, à tout un exode intérieur. Nous allons passer, si nous sommes dociles à cette voix sans voix de Dieu, on n'entend pas des paroles par les oreilles, mais à ces motions de l'esprit en nous, eh bien progressivement, il nous fera passer d'un mode d'être qu'on pourrait appeler de psychique à un mode d'être spirituel. La façon dont lui fonctionne. Nous avons reçu au baptême le même esprit que Jésus, l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi aussi nous sommes les frères de Jésus. Vous voyez, nous avons un patrimoine génétique et qui fait que on peut voir dans nos gènes nos parents, nos grands-parents, éventuellement le facteur. Mais nous avons, on pourrait dire, oui, on a aussi une génétique spirituelle. Nous avons du divin en nous, nous sommes la famille de Dieu, et c'est bien plus important que les liens du sang, dont parfois, dans certaines familles, on se passerait bien. Quand il y a des gens qui ont fait des trop grosses bêtises, ou ils se sont mal comportés. Et donc nous sommes de la famille de Dieu, et ça pourrait dire cette génétique divine, c'est l'esprit. Nous avons l'esprit au fond de nous-mêmes, et comme je vous le disais à l'instant, ben, c'est l'esprit à votre vie qu'il vous fasse vivre. Et donc tout ce temps de carême, qui est cette préparation à Pâques, est une préparation aussi qui petit à petit doit laisser cet esprit de Dieu se manifester en nous. Et donc, je ne sais pas si vous étiez à la messe tous ces jours-ci, et tous des épisodes d'évangile, les passages d'évangile qui sont choisis tous ces jours, sont des passages d'évangile où le Christ nous met un peu le nez dans le caca, quoi. Il nous montre dans le fond que nous raisonnons suivant des choses d'ici-bas, plutôt que d'accepter simplement, parce que Dieu n'est pas compliqué, que lui agisse en nous et nous transforme en lui-même. Et donc, nous sommes appelés à vivre, nous aussi, un exode, mais qui n'est pas un exode dans l'espace, qui n'est pas un exode avec un déplacement corporel, mais c'est un exode intérieur. Et le Christ, dans le fond, tout au cours de ses passages d'évangile, ces jours-ci, nous fait des crocs en jambes. Comme ce matin, aimez vos ennemis, on n'a aucune envie d'aimer ses ennemis. Et ben, je ne me rappelle plus à l'instant des passages des jours antérieurs. Alors, pour que la vie de Dieu progresse en nous, c'est ce qu'il veut. Si vous prenez la première lettre de Saint Jean, 1 Jean 3,2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais on ne le voit pas avec les yeux de la chair. C'est les voir avec les yeux, on pourrait dire, de l'âme, avec les yeux de l'esprit. Ou encore Saint Paul, ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre façon de penser pour savoir reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. C'est un renouvellement intérieur. Et donc c'est un sacré exode. C'est une évolution, on pourrait dire, bien plus importante que l'évolution, on pourrait dire, du monde vivant, et qui se passe en l'espace d'une vie. Voilà, donc grosso modo, si nous vivons suivant l'esprit du monde, et le monde est de plus en plus agressif, nous sommes esclaves. Et vous savez fort bien, le monde présent, je pense que les hommes n'ont rarement été aussi esclaves que maintenant, à travers une société où c'est du prêt à penser, du prêt à porter, du prêt à consommer, où on vous incite à consommer. Voilà, et pour finir, où est la liberté de l'homme? On lui donne déjà ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit désirer. Vous l'avez cité, je pense, je le cite souvent dans les homélies, quand j'étais énormément frappé il y a quelques années par cette publicité de Sony. J'en ai rêvé, Sony l'a fait. Bon, c'est pas que j'en avais rêvé, mais ils essayent de m'inculquer que c'est ce que je désirais, quoi, dans le fond. Et il faut absolument que je l'achète, sinon je ne serai pas heureux. Bon, ce sont des exemples très extérieurs, mais qui montrent qu'on est appelé à la liberté. Où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Et donc, ce temps de carême, dans le fond, est une sortie de cet esclavage qui nous est proposé. On en fait ce qu'on en veut. Dieu nous laisse libre. Vous savez, dans notre vie de chrétien, on est souvent poussé vers des choses extrêmement complexes. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut tenir ci, il faut tenir ça, et puis zut. Jusqu'au jour où on craque et on se dit, mais ma foi, c'est peut-être pas là que le Seigneur nous attend. Il nous attend, Dieu est simple et nous attend dans des choses simples. Alors cela nous renvoie à chacun, à notre vie intérieure de relation à Dieu. Et je commencerai par une citation de la dernière sainte du Carmel, la petite arabe, Mariam. Vous en avez parlé à la... Voilà. Bon, pour ceux qui s'en rappellent pas, celles qui ne s'en rappellent pas, c'est le 19e siècle, elle est morte quand la petite Thérèse avait 3 ans. Donc vous voyez, ça chevauche un peu. Et puis elle savait ni lire ni écrire, elle a été égorgée par un musulman, elle aurait dû mourir, elle a été soignée miraculeusement par la Sainte Vierge. Elle s'en est sortie, et puis pour finir, elle a été carmélite, de fil en aiguille, et de choucroute en cassoulet. Elle est devenue carmélite au Carmel de Pau, puis le Carmel de Pau a fondé à Mangalore en Inde, elle a été en Inde, et puis à Bethléem, où elle a été envoyée. Elle savait parler arabe. Donc le Carmel de Bethléem est dû essentiellement à Marie de Jésus crucifié, Mariam la petite Anne. Voilà. Alors, elle disait dans une extase, le Seigneur m'a montré tout. J'ai vu la colombe de feu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Adressez-vous à la colombe de feu, à l'Esprit Saint, qui inspire tout. Vous voyez, demandez à l'Esprit. Il ne demande pas mieux que de se communiquer à nous. Alors méfiez-vous parce que combien de fois, je sais par expérience, quand les gens viennent me voir, ils disent « Ah, le Seigneur ne me parle pas !» Mais si on le prend sous un autre angle, il nous parle tout le temps. Pourquoi il ne nous parle pas? Parce que nous nous imaginons que l'on va entendre des paroles par nos oreilles. Mais il ne parle pas aux oreilles, le Seigneur. Il parle au cœur. Son esprit parle au cœur. Alors le type de personne là, dont je vous parle, le Seigneur ne me parle pas, il dit, mais quand je viens à la prière, je suis dans une très grande paix. Il dit, vous ne trouvez pas que c'est une parole efficace, ça? La parole de Dieu est efficace. Donc la personne éprouve une paix très profonde, et dans cette paix profonde, eh bien, le Seigneur peut faire du travail dans la personne. Donc si vous comprenez, le mode suivant lequel le Seigneur se communique. N'attendez pas des paroles, ou alors quand les personnes, le Seigneur m'a dit, moi je m'en méfie, hein, on a une femme qui vient ici qui est complètement timbrée. Une femme de 60 ans, extérieurement elle est très bien, mais le Seigneur lui a dit qu'un frère, là, il y en a un qui n'a pas la bile. Parce qu'il était jadis chez nous, puis il est parti aux béatitudes, il a été fidei donum en Amérique du Sud, et puis au Mexique, etc. Puis du coup, maintenant qu'il a une trentaine d'années de sacerdoce, peut-être pas, oui, 25 ans de sacerdoce, il éprouve le besoin de revenir au Carmel. Et donc cette bonne femme s'est imaginée que c'était un faux prêtre qui avait été envoyé par les francs-maçons. Et alors, quand c'est lui qui est célébrant principal, elle part en faisant du bruit du fond de la messe avec sa copine. Alors, Jean-Gabriel, le prieur actuel, leur a dit, ou vous venez à la messe avec n'importe quel frère, ou alors vous ne venez plus du tout. Et tout ça parce que le Seigneur lui a dit que... Voilà, donc, une méfiance quand des personnes ont des paroles comme ça. Devez en avoir autour de vous, c'est très à la mode. Mais vous comprenez, en contrepartie, le Seigneur nous parle tout le temps, mais par... il ne parle pas par les oreilles, j'entends rien, il s'adresse à moi jamais, mais oui, mais il vous donne sa paix, une paix céleste. Faut pas blaguer quand même, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et la parole est efficace, et elle s'exprime sans mots. Parce que là, on voit que ça change le cœur. Exemple aussi, les gémissements de l'esprit. C'est parlé dans les Écritures, on parle des gémissements de l'Esprit. Ne contristez pas non plus l'Esprit Saint, ça c'est Éphésiens 4:30. Ne contristez pas l'Esprit Saint. Vous voyez la finesse que nous devons avoir pour nous laisser prendre par cet Esprit de Dieu qui va nous faire sortir de nous-mêmes pour nous amener dans le fond dans la véritable terre promise. Alors que nous sommes enfermés, vous voyez à quel point on n'est pas libre, on est enfermé dans des schémas. Il faut éprouver ceci, il faut éprouver cela, mais non, il n'y a rien à éprouver. Mais il y a cet infléchissement du cœur qui fait que ben, on est dirigé vers un espace où, dans le fond, nous serons de plus en plus libres. Et à travers lequel aussi nous passerons, comme les Hébreux, par des tentations, par la tentation de retourner en arrière, aussi vouloir des cailles. Vous voyez ce que ça signifie profondément, vouloir des cailles, c'est-à-dire qu'on se fait un schéma. Et il faut que j'ai telle chose. Le Seigneur est bon prince, il leur envoie des cailles jusqu'à ce qu'ils en soient, comme disaient les Canadiens, en écarine. Hein. J'en ai en écarine. Mais bon, il voulait leur donner beaucoup plus, avec beaucoup plus de finesse. Vous voyez comment on peut, et nous le connaissons fort bien dans nos vies, nous avons dans le fond une sorte de révolte intérieure. Qui fait que on n'est pas dans cette simplicité d'accueil de ce que Dieu veut nous donner. Or, ce qu'il veut nous donner, c'est le milieu. Le milieu. Bon, vous voyez qu'à partir d'une simple parole, là, ça nous place face à la réalité, souvent, de ce que nous avons à vivre. Donc, nous sommes amenés, au cours de toute notre existence, et durant tout particulièrement ce temps de carême, à vivre une sorte d'exode, mais le véritable exode, qui nous fait sortir de nos façons de voir, de comprendre, d'aimer, qui sont trop naturelles, vers quelque chose qui ressemble au mode d'aimer, de comprendre, de saisir les choses comme Jésus. Et à ce moment-là, hein, comme il le dit lui-même, je suis venu pour que l'homme ait la vie, qu'il l'ait en abondance, et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous voyez, ça nous place face à un problème de liberté intérieure. Dieu veut nous amener à la liberté intérieure. Bien, rien qu'à partir d'une simple phrase, vous voyez, de Mariam, ça peut nous mener là. Alors là, je vous le reprends à travers Romains 8, 14, 16. Tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit que pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On pourrait dire, à contrario, que si ce n'est pas l'Esprit qui nous anime, nous ne sommes pas véritablement chrétiens. C'est dur, hein ? Mais ce n'est pas une somme de pratiques extérieures, une sorte de truc comme quand on était en classe, fait le minimum pour arriver quand même à la moyenne et ne pas redoubler. C'est autre chose. Vous voyez, c'est vivre comme a vécu le Christ. La façon dont il se comportait, dont il priait, dont il aimait, etc. Et il n'était pas plus doué que nous, je pense. Sinon, c'est de la duperie. Comment voulez-vous qu'il nous sauve s'il n'est pas comme nous ? Mais seulement tout ce qu'a accompli le Christ, il l'a fait en se laissant guider par l'Esprit que lui donnait le Père. Et donc, si nous accueillons cet Esprit, il nous fait sortir de nous-mêmes, je vous dis, nos façons de voir, de penser, de comprendre, de nous comporter, entre parenthèses, de façon chrétienne, pour nous conduire dans cette liberté où, comme dit Paul, hein, toujours la lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ne vous conformez plus au monde présent, mais sachez reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Donc, vous voyez, nous raisonnons suivant, on pourrait dire, pour reprendre sous un autre terme, l'Esprit Saint, nous raisonnons avec un esprit de famille à ce moment-là. Il y a des façons de voir les choses, de les comprendre dans une famille. Nous avons reçu une certaine éducation familiale et on perçoit les choses de telle ou telle façon. Mais de la même façon, il y a un état d'esprit de la famille divine qu'il nous communique par l'Esprit Saint, et qui est beaucoup plus que notre façon de voir. Et si nous n'en bénéficions pas, c'est parce que nous sommes trop compliqués, parce que nous sommes attachés à nous, à nos façons de voir et de comprendre. Si c'était des trucs hyper compliqués, c'est injuste. Il n'y aurait qu'une élite intellectuelle qui pourrait comprendre. Donc, ça serait anti-divin. Encore ce matin, une dame est venue me voir, elle m'a dit... Je viens vous voir pour savoir si vous avez des techniques. Mais moi, je n'ai pas de technique. La seule technique, c'est la simplicité de se laisser prendre par lui. Et d'ici, vous en êtes là, c'est déjà qu'il vous a touché. Alors laissez-vous toucher encore plus. Toujours chez Marie de Jésus crucifié, vous allez voir. Qui est par excellence un être simple. Je vous le dis en vérité, en vérité, en vérité. Quiconque invoquera... L'Esprit Saint me cherchera et me trouvera. Sa conscience sera délicate comme la fleur des champs. Et si c'est un père ou une mère de famille, la paix sera dans cette famille. Et la paix sera dans son cœur, dans ce monde et dans l'autre. Il ne mourra pas dans les ténèbres, mais dans la paix. Vous voyez, au niveau distance, cet exode, je vous disais, bon, l'exode des Hébreux, bon, 40 ans, nous rappelons de la guerre des six jours... Les Égyptiens l'ont traversé en sens inverse en 6 jours. Et s'il les a fait poireauter 40 ans, c'est qu'il avait des choses, ou il désirait leur apprendre des choses qu'ils ont très mal apprises. Et là, l'exode qui nous est demandé, c'est de passer de notre tête, de notre psychisme, au cœur. La distance est très courte, elle est intérieure, mais c'est la distance, pour dire intérieure, de notre libération. Et quand par exemple, en... L'évangile de Jean, chapitre 17e, quand Jésus dit « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Et l'esprit que nous avons reçu, donc tous au baptême, c'est l'esprit de Dieu, donc c'est cet esprit aussi de vie éternelle. Voilà aussi pourquoi un chrétien dans ce monde, bon, il ne nous retire pas du monde, mais, et donc de son prince,
qui est l'esprit des ténèbres. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins. Nous voyons bien quoi, qu'il y a quelque chose qui est de très ténébreux dans ce monde. Et que la ténèbre augmente. Et que, bon, c'est Jésus qui lui est le prince de ce monde. Hein. C'est mystérieux. Hein. Beaucoup de gens qui ont le pouvoir, même en politique, sont souvent les jouets du prince des ténèbres. À partir du moment où quelqu'un veut se réaliser, avoir le pouvoir, etc. Donc, comme il nous dit Jésus, voilà, si nous vivons véritablement de l'esprit, nous aurons déjà dès ce monde de plus en plus à souffrir, parce que c'est pas conforme à ce que nous sommes intérieurement. Il y a une discordance entre cet esprit et puis ce qui nous attire intérieurement. Ce qui fait que de façon poétique, on le retrouve chez nous, au Carmel, à travers Jean de la Croix, qui nous dit, dans un poème, le Cantique spirituel, « Je sortis dans la plaine, et je ne connaissais plus rien, et je quittais les troupeaux que jusque-là je suivais. » C'est exprimé de façon poétique et pastorale. Alors, « Je sortis dans la plaine, et je ne connaissais plus rien. » C'est-à-dire, celui qui s'est laissé transformer par l'esprit, ne voit plus les choses du monde comme avant. Et donc, du coup, ça lui est insupportable de reprendre son mode de vie antérieur, suivant l'esprit du monde. Et là, comme il dit, de façon poétique, et à ce moment-là, je quittais les troupeaux que je suivais. Ce troupeau des idées, ce troupeau du bien-penser, ce troupeau d'aimer telle ou telle chose. Je dis qu'on nous imprime maintenant, même de façon presque dramatique, je m'en rends compte à travers Internet, et etc., etc. Si par hasard vous achetez un truc, après vous êtes sûr que pendant 6 mois, on vient vous tarabuster, c'est enregistré, on sait que vous intéressez aux appareils photo. Alors vous imaginez le mec qui va avoir des nanas à poil, après il est sûr qu'il ne pourra plus s'en sortir, quoi. Hein, du moment qu'il y a du poignon à tirer, et voyez, donc, bon j'exagère, mais... plus nous serons à Dieu, plus c'est ce qui nous fera vivre, plus nous sentirons que c'est là se trouve notre bonheur, plus nous serons, il ne faut pas se faire d'illusions, en discordance et nous sommes fera souffrir avec un esprit du monde, et aussi ce qui est en nous, et qui n'est pas arraché encore. Comme dit Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, même le grand saint Paul. Donc ce combat qui est entre nous et le monde, nous l'avons aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et voyez cet exode, là, ben, je suis sorti sans être vu, eh bien il est passé de la tête, on pourrait dire, définitivement au cœur, et donc il se trouve en totale discordance avec l'esprit du monde. Voilà, donc l'homme est pris, à ce moment-là, on pourrait dire, dans la véhémence amoureuse de Dieu, parce que Dieu c'est essentiellement un grand amoureux, il nous aime, qui que nous soyons, hein, c'est ce matin, il ne peut pas supporter qu'un seul se perde. C'est ça l'amour de Dieu. Même le dernier des voyous, il ne peut pas supporter qu'il se perde. Et on sait qu'il lui-même a rejeté fortement tout ce qui n'était pas conforme à la pureté et à l'amour de Dieu. C'est sûr que les marchands du temple, ils ont dû se passer du borostyrol sur les fesses après. Hein. Mais ce n'est pas qu'il ne les aimait pas, mais il ne pouvait pas supporter ce mensonge. Donc, au cœur de ce problème, puisque c'est un exode et par rapport à l'image de cet exode de 40 ans dans le désert, où ils auront à souffrir du fait de marcher, du fait de la faim, où il se donnera à Moïse, où ils ne comprendront pas, ils préféreront revenir, voyez, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, le passage du veau d'or. Dieu se donne au-delà de tout. Mais ça implique de sortir de soi-même et d'accepter que Dieu intervienne dans nos vies. C'est beaucoup plus simple à ce moment-là de se fabriquer une statue de ruminant. On l'a, on peut le toucher, on se met à genoux devant lui, etc. Nous savons fort bien la colère de Moïse, qu'il en casse les tables de la loi. Voilà, mais on pourrait dire qu'après ces... au fur et à mesure que ces épreuves... À travers, nous sommes tous invités. Hein, c'est lui qui nous les propose. Et ne repartons pas en arrière. Même si cela fait souffrir, après, au-delà, petit à petit, va se dégager, si vous voulez, au fur et à mesure que ces forces du moi diminuent, va se dégager de l'autre côté les forces de ce moi éternel, ce qu'il a voulu pour nous de toute éternité, et nous faire participer profondément à sa vie. Et donc là, nous éprouvons de plus en plus profondément l'amour et la tendresse de Dieu. On est aimé. Il nous aime. Je l'aime. Chez Sainte Catherine de Sienne, lettre 120. Donc cet esprit souvent est comparé à un feu, et nous savons ce que c'est que le feu. Hein, ça brûle, donc ça fait mal. Ça éclaire, donc on commence à voir et à comprendre. La nuit, on voit ce qui entoure le feu, hein, et ça purifie. Bon, maintenant, on s'en sert peu, mais jadis, un objet rouillé, réaction d'oxydoréduction, réduction dans ce sens-là, la chaleur dégagée par le feu réduit, la rouille s'en va de l'objet. Donc vous voyez, ça purifie, ça rend la valeur aux choses, hein, c'est toute la symbolique. Et donc cet esprit est vraiment un feu aussi, un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant, comme il est dit dans l'Ancien Testament. Et l'esprit de Dieu, c'est ce feu d'amour, on emploie aussi dans le vocabulaire courant, quoi, l'ardeur amoureuse, qui exprime ce feu. Tu m'allumes avec une allumette. C'est quoi ça, cette chanson? Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Non, Essette, t'es plus belle. Non, tu m'as. T'es plus belle qu'un pétard, c'est quoi ça? Donc voilà, ce feu que nous avons en nous, depuis le baptême, n'attend que notre oui, dans le fond. Regardez ce que disait Mariam, pour nous investir, brûler tout, et que, pour finir, on n'en soit qu'une seule flamme avec lui. Nous avons ça, par exemple, au Carmel, bon, je ne suis toujours pas à la citation de la lettre, de Sainte Catherine de Sienne, où Jean de la Croix emploie cette parabole, cette image qu'il a trouvée. Nous sommes comme une bûche qui est jetée dans le feu. Et si la bûche est humide, elle ne va pas prendre feu de suite, et elle va d'abord se noircir, elle va se déposer de la suie dessus, puis elle va rendre toute la flotte qu'elle a à l'intérieur. Si c'est du bois vert, la cèdre d'abord. Donc c'est une période où on noircit, où on exprime donc toutes ses humeurs, et donc c'est quelque chose, je vous dis, par rapport à la souffrance, qui est très désagréable. Puis il va arriver un moment où le bois sera desséché, sera sec, et à ce moment-là, le feu va prendre. Et pour finir, on ne verra plus la bûche, elle sera transformée en feu. Et c'est une image qui nous fait comprendre ce que l'Esprit veut réaliser en nous, et quel est cet exode intérieur qu'il veut opérer en nous. Alors c'est sûr, si nous mettons entre notre psychisme et le cœur une combinaison ignifuge, liée à notre égoïsme, liée à nos peurs, etc.
Ou un camion de pompier.
Ou un camion de pompier. C'est dur, hein, ce qu'ils font. Hein. Et ça ne peut pas prendre. Alors, j'en viens à Catherine de Sienne, à la lettre 120. Dieu le Père, poussé par le feu de sa charité, vous voyez, cet amour qui est ardent, a envoyé le Verbe, son Fils unique, qui est venu comme un char de feu, comme le prophète Élie s'est enlevé dans un char de feu, répandant ses flammes de l'amour ineffable et la miséricorde éternelle du Père. C'est bien ce que dit Jésus. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il soit allumé. Je sais plus où c'est, je me demande si c'est pas Luc 12:42. Faudrait que je vérifie. Nous enseignons la doctrine de la vérité et nous montrant la voie de l'amour que nous devrions suivre. Il a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui suit cette voie en vérité reçoit la vie de la grâce et marche à la lumière de la sainte foi. Et avec cette lumière, il arrive à l'éternelle vision de Dieu. Et vous le comprenez, suivant ces images, si je me laisse prendre par l'esprit, si l'esprit peut m'enflammer, si j'accepte qu'il m'enflamme de son ardeur, comme je deviens feu, par le feu que je suis, je verrai le feu éternel de l'amour. Hein, c'est la première lettre de Jean, 1 Jean 3:2. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons feu, comme lui, de cette ardeur d'amour. Donc on comprendra et on saisira l'ardeur d'amour de Dieu. D'où cette importance, on pourrait dire, d'accepter que Dieu opère en nous et qu'il nous aide, en lui donnant la main, à accomplir cet exode intérieur. Et on pourrait dire que tout l'espace de notre vie ici-bas correspond à cet exode où il faut lui tenir la main pour se laisser prendre et enflammer de ses sentiments. Et vous avez ça aussi en Philippiens 2.5, parce que je vois dans les brévières, l'hymne aux Philippiens commence à 2.6. Lui qui est de condition divine n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, etc. Mais le verset 2.5, revêtez-vous des sentiments du Christ. Lui qui de condition divine n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Vous voyez, il nous a fait, c'est Genèse, le livre de la Genèse, le premier livre, l'histoire de la création en 7 jours, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc il nous a fait des êtres de lumière. Le péché originel fait que l'homme se coupe, il se dévait de cette lumière de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que où ai-je mis mon slip, petit bateau? L'homme s'aperçoit alors qu'il est nu. Mais ce n'est pas une nudité essentiellement physique, c'est la nudité de son âme qui s'est dévêtue de la lumière et du feu divin. Et à ce moment-là, ben, il éprouve, il essaye de se débrouiller comme il peut par lui-même. La plupart du temps, en se revêtant non pas de fringues, mais de péché. Parce que ça génère la peur, et on a peur de passer pour des couillons auprès des autres. Alors c'est le mensonge, le faux semblant, etc., etc. Toute la gamme des péchés est liée, dans le fond, à notre nudité. Alors que nous étions revêtus de l'Esprit Saint, on était revêtus de lumière. Oui, c'est symbolique, hein. Et donc on patauge comme on peut dans la ténèbre, cherchant vainement une issue pour trouver le bonheur, mais qui ne se trouve que dans l'abandon en Dieu, en acceptant que l'Esprit puisse nous redonner la plénitude de la lumière qu'il désire ardemment. Vous voyez combien ça se rapproche de la situation contemporaine, dans le fond. Et qu'en fait, ce n'est pas nouveau, c'est des choses qui ont affecté l'humanité depuis le départ. Alors bon, si nous revisitons encore une fois le livre de l'Exode, bon, ils sont, moi je me dis en moi-même, excusables, ils ne savaient pas qui était Dieu. Celui qui le savait le mieux, c'était Moïse. Mais c'est très pédagogique, dans le fond. Vous voyez combien Dieu s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Il prend donc un peuple esclave qui ne le connaît pas. Et à travers 40 ans de vie dans le désert, il les conduit jusqu'à ce qu'ils le connaissent. Certains du moins, pas tous. Donc Dieu s'inscrit dans l'histoire et il les amène à faire cette connaissance de feu. Et cela ne se réalise pleinement que dans le Nouveau Testament, avec Jésus qui envoie ce feu à la Pentecôte. Comprenez pourquoi aussi à la Pentecôte cet esprit de Dieu qui s'est déjà manifesté au baptême de Jésus, sous la forme de la colombe, on pourrait dire une colombe de feu, dans le fond, montrant qu'il investit à travers Jésus toute l'humanité, il désire investir toute l'humanité, et donc on le retrouve surtout à la Pentecôte. Et comment, sous forme de feu, et de langue, et les langues c'est fait pour parler. Mais on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Sinon, il vaut mieux aller voir William Fermetag. Donc, à travers la Pentecôte, c'est l'envoi définitif de l'Esprit que nous-mêmes nous recevons donc dès le baptême et ensuite à la confirmation. Pour celles qui font du catéchisme, vous voyez quelle est l'importance de recevoir, d'accueillir l'Esprit et d'en vivre. Parce que souvent, après, les gamins ne foutent plus l'épée ou à l'église. Et comme le dit Origène, si l'Esprit est donné par Dieu, et si Dieu est un feu qui consume, l'Esprit lui-même est un feu. Et c'est en sachant cela que l'apôtre nous invite à être fervents dans l'Esprit. Alors, ça montre une autre chose aussi qui plaît pas trop à l'heure actuelle, parce qu'on voudrait que nous soyons des êtres libres, mais en fait, vous l'avez compris, à travers la société moderne, on n'est pas du tout libre. Ainsi du prêt à penser, du prêt à aimer, du prêt à acheter, etc. Mais en fait, Dieu nous veut, lui, totalement libre. Et cette liberté, souvent, comme elle fait souffrir, qu'elle chasse nos ténèbres et que ça fait souffrir, donc c'est désagréable, la souffrance. Hein, comme l'histoire des oignons d'Égypte, nous préférons ne pas l'accueillir. Ou la manne, pareil, on préfère ne pas l'accueillir. Alors, donc, le problème contemporain, et qui vous dit une chose qui est, parce que soi-disant, on n'est pas libre, c'est l'obéissance. L'obéissance nous rend libre. Si j'obéis à ce que Dieu me demande, si je suis accueillant du don de l'Esprit, c'est ça l'obéissance, eh bien, il me libère de moi-même. Et il m'aide à sortir sans être vu, à partir dans cette plaine où on ne connaît, pour finir, on ne connaît plus rien. Il a changé notre façon de voir, d'aimer, de comprendre. Et vous savez qu'étymologiquement, écouter, ça veut dire, en latin, littéralement, passer sous une écoute. Ob, audire, l'audition. Le mot qu'on retrouve en français. Un appareil auditif, une prothèse auditive. Et ob, donc il précise, ob, c'est passer sous une écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. La vocation du prophète Samuel, par exemple, le jeune Samuel. Et l'homme moderne n'écoute pas souvent ce qui vient de la voix de Dieu. Il écoute que ce que lui propose les médias. Enfin, quand on ouvre une radio, bon, en cellule on n'écoute pas, mais quand on est en voiture, que c'est un peu long, ben c'est, au bout d'un moment on ferme l'autoradio, ils sont gonflants. Quoi. Mais voyez-vous, l'homme moderne, comme le peuple hébreu au désert n'a pas envie d'écouter. Et donc, il n'obéit pas. Par contre, il obéit aux démons, aux forces des ténèbres, qui justement sont beaucoup plus alléchantes au départ. Une des caractéristiques de ce comportement, là, ténébreux, c'est que ce que proposent les forces des ténèbres, c'est très séduisant au départ. On a l'impression d'aller vers un plus, mais après, son joug retombe, et il est écrasant. Tandis qu'avec Dieu, dès le départ, il y a un joug. Mais ce joug est doux et suave à porter. Et de Jésus nous le dit. Alors méfions-nous quand il n'y a plus du tout de joug. C'est le premier temps souvent de l'attaque du démon. Et après, quand le joug du démon tombe, on est complètement écrasé. Prenons un exemple. Chez nous, en ce moment, on est confronté à beaucoup de frères qui partent, qui quittent. Alors évidemment, moi j'en suis sûr. Au moment où ils quittent, ils éprouvent une liberté, il n'y a plus la contrainte de la vie fraternelle, des horaires de prière, des emmerdements qu'il y a dans une communauté, comme il y en a dans les familles, c'est une famille aussi. On éprouve un espace de liberté, puis en plus, si on se trouve une jolie baigneuse, voilà, on va décrocher le gros lot. Mais après, ça retombe.
Pour les envoyer en Suisse, il n'y a pas de baigneuse là.
Hein?
Pour les envoyer en Suisse, il n'y a pas de baigneuse.
Il n'y a pas de baigneuse.
Parce que dans le lac de Genève, il fait vraiment chaud.
Il fait vraiment chaud. Hein. Bon, là-bas, on se baigne les deux mains dans les poches. Hein. Surtout dans les lacs de montagne. Il y a des palmes avec de la fourrure polaire. Voilà, bon, je vais en rester par là, hein, pour ce soir. Alors, j'essaye de résumer la situation. On est dans ce temps de carême, qui est un temps d'exode. Le peuple hébreu qui fait un exode de 40 années, en tournant en rond, là, dans le presqu'île du Sinaï, là, du Sinaï. Et nous, nous sommes amenés à un exode beaucoup plus fond, dans le, en quelque sorte, mais un exode qui est sans espace, on pourrait dire, géographique. C'est un exode, on pourrait dire, de notre psychisme qui est si influençable par le monde et les œuvres de son prince, à un passage au cœur. Et ce passage au cœur ne peut se faire que en nous livrant simplement à l'esprit, en accueillant l'esprit qui veut nous transformer en Dieu, et sachant que, ben, comme pour le peuple hébreu, ça ne se fait pas sans arrachement et sans souffrance à l'intérieur de nous-mêmes. Mais, pour finir, la personne qui est arrivée au terme de cette transformation voit, comprend, saisit, comme le Christ a compris, saisit, aimé et s'est donné dans l'obéissance à son Père.